Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Si je vous dis qu'un livre ou qu'un film est rabelaisien, Mathieu, vous imaginerez sans peine quelque chose de truculent, de gai, d'un peu grossier parfois. Si je vous parle d'un texte voltairien, même chose avec l'ironie, la liberté de ton et la satire. Voltaire et Rabelais font partie des écrivains dont l'œuvre a tellement marqué les esprits que leurs noms sont devenus des adjectifs. Eh bien, c'est exactement la même chose avec George Orwell, surtout à une époque dont beaucoup disent qu'elle a un côté orwellien. Dès que l'on parle d'eugénisme, on pense au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui a d'ailleurs été prof de français de George Orwell. Et dès qu'on parle de totalitarisme, on parle d'Orwell et de son dernier roman, 1984, parfois du précédent aussi, La ferme des animaux, un conte grinçant où une basse-cour, d'abord révoltée contre ses maîtres humains, finit sous la coupe des animaux les plus puissants de la ferme. Les cochons.
C'est le fameux « tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres ».
Exactement, Mathieu. Mais le livre le plus célèbre de George Orwell, c'est indéniablement 1984. Big Brother, le télécran ou la minute de la haine sont devenus des symboles extrêmement puissants. Même lorsqu'on n'a pas lu le roman, dès qu'on les cite, tout le monde sait à peu près à quoi on fait référence. 71 ans après sa mort et quelques mois après avoir rejoint la prestigieuse collection de la Pléiade, Orwell incarne toujours l'écrivain visionnaire, celui qui a le mieux décrit la manière dont fonctionne un pouvoir total. Pour comprendre pourquoi Orwell a toujours cette influence aujourd'hui, il faut connaître son parcours. George Orwell, qui s'appelait en réalité Eric Arthur Blair, est né en 1903 au Bengale, une colonie britannique à l'époque, et est mort jeune, à 46 ans à peine, en janvier 1950, touché par la tuberculose. Rien que ces deux dates, 1903 et 1950, donnent un indice. Orwell était aux premières loges pour cette terrible première moitié du XXe siècle. Il était adolescent pendant la Première Guerre mondiale. Il a vécu les ravages de la crise économique de 1929. Il a vu naître le fascisme avec Mussolini, le nazisme avec Hitler et le stalinisme en URSS. Il a traversé la Seconde Guerre. Il a vu s'ériger le rideau de fer. Il a assisté à la naissance des deux blocs d'Est et d'Ouest. Mais surtout, Orwell ne s'est jamais cantonné à un rôle de témoin. Il s'est engagé. Bien avant d'être romancier, Orwell a été journaliste. Et si on a souvent tendance à l'oublier, il a assez peu écrit de pure fiction. L'essentiel de son œuvre est composé d'essais, d'articles, de reportages. Dans La Dèche à Paris et à Londres, publié en 1933, c'est ainsi le récit d'une vie de vagabond et de miséreux. Sa vie, après avoir quitté son premier métier, officier dans la police anglaise en Inde. Le quai de Wigan, de son côté, décrit les conditions de vie des mineurs anglais dans les années 30. Hommage à la Catalogne, Paris en 1938, est un exemple de plus de ce journalisme qui sort de chez lui, comme il disait. C'est un témoignage de son engagement contre le franquisme pendant la guerre d'Espagne, une guerre qui a failli avoir sa peau puisqu'il a été touché d'une balle à la gorge un an plus tôt. De son parcours, Orwell a tiré plusieurs convictions. D'abord, celle d'être un homme de gauche, fervent partisan d'un socialisme démocratique, puis celle de s'opposer sans état d'âme et sans concession au totalitarisme, à tous les totalitarismes, y compris à celui de Staline en URSS, ce qui ne lui vaudra pas que des amis à gauche. Cette posture chèrement payée l'a obligé à une exigence morale, le refus d'excuser les dérives de son propre camp. À un moment où Aragon cède aux sirènes staliniennes et Sartre excuse beaucoup de choses, Orwell, lui, tient sa ligne. Du début des années 30 à la fin des années 40, il dénonce la mécanique totalitaire d'où qu'elle vienne. Comme La ferme des animaux, 1984 est une dystopie qui porte un message. Dans cet ouvrage, Orwell y décrit une société qui s'inspire autant du totalitarisme nazi que du régime stalinien. Les deux ont en commun ce que démontre Orwell. Un monde où l'État ne laisse absolument aucun angle mort à sa population, dans la vie privée comme dans la vie publique. Orwell revient à la racine même du mot totalitarisme, un régime où l'État est total et dirige chaque aspect de la vie des gens, y compris les plus intimes. Tout est soumis au parti unique et à ce chef qui voit tout, regarde tout, entend et surtout écoute tout. Big Brother. Toute contestation est gommée, toute rébellion mène à la rééducation ou à la mort. Chez eux, les habitants sont constamment sous l'œil du fameux télécran qui permet de les voir, de les écouter en permanence.
C'est Google Home.
Évidemment, cela fait écho dès qu'on parle des sociétés autoritaires d'aujourd'hui, comme la Chine avec ses logiciels de reconnaissance faciale ou ce système de crédit social, ces notes qui servent à limiter les marges de manœuvre des citoyens en fonction de leur comportement. On pense aussi à Singapour, cette cité-État où tout est constamment filmé, géré et surveillé par des intelligences artificielles. Mais Orwell serait sans doute le premier à pointer les paradoxes et les dérives potentielles des démocraties occidentales avec nos drones, nos fichiers, nos caméras de surveillance, nos téléphones portables géolocalisés, nos assistants vocaux allumés en permanence. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel son héritage est encore plus sensible aujourd'hui, c'est celui qui touche au langage et à la notion même de vérité. Vous allez voir. Jusque dans son propre camp, George Orwell a toujours alerté sur le fait que la démocratie est en permanence menacée par le mensonge. La répression, la brutalité, la violence, l'état policier, le règne de l'arbitraire, c'est ce qui est le plus évident quand on pense à une dictature. Mais il y a pour Orwell un danger plus perfide, la manipulation du langage. Cette peur ressort particulièrement dans 1984 avec deux mots qui reviennent dans tout l'ouvrage. Le premier, c'est le « double think », la double pensée. Cette idée que le pouvoir peut imposer petit à petit un double discours contradictoire au point de brouiller tous les repères. L'exemple le plus frappant, c'est le triple slogan affiché partout dans son Londres imaginaire. « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Le second, c'est le célèbre « newspeak ». La novlangue dans les premières traductions françaises. Le newspeak, c'est la langue imposée par l'État, réduite, simplifiée, appauvrie, pour supprimer petit à petit tout ce qui permet d'amener de la nuance, de la complexité ou de la finesse à la pensée. La novlangue oblige à penser de moins en moins bien parce qu'on n'a plus les mots pour le faire. Pour lui, cela permet surtout de réécrire l'actualité, mais aussi l'histoire à sa guise. Dans 1984, c'est évidemment poussé très loin, mais on peut difficilement ne pas penser à cette manière d'affadir le langage quand on pense à la langue de bois, au politiquement correct ou aux fameux éléments de langage. On pense forcément à Orwell quand on voit qu'un clochard devient un SDF ou qu'une vague de licenciement devient un plan de sauvetage de l'emploi. Le danger, prévient Orwell, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux et de plus en plus facile d'escamoter les faits. Ce qui sonne forcément comme une alerte aujourd'hui avec l'explosion du complotisme ou du jeu risqué que jouent certains responsables politiques. On pense forcément à Orwell quand on entend Kellyanne Conway, l'ex-conseillère de l'ex-président Trump, quelques semaines après son arrivée à la Maison-Blanche, parler de « faits alternatifs », brouillant ainsi la frontière entre faits réels et faits fabriqués ou très approximatifs. Cet avertissement d'Orwell prend une dimension particulière aujourd'hui parce qu'il vient évidemment menacer l'idée même de démocratie qu'il a toujours défendue. C'était même le pire des dangers à ses yeux. Dans un de ses textes, il écrivait ceci. « Le sentiment que le concept même de vérité objective est en passe de disparaître du monde m'effraie bien plus que les bombes. »
Europe 1, historiquement vôtre.